EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie de recevoir l'évangéliste Frank Poulin et notre invité aujourd'hui, l'apôtre Pasteur Alain Tsengue. Bonjour, Pasteur Alain.
Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour, évangéliste.
Comment ça va?
Très bien, par la grâce de Dieu.
Gloire à Dieu. Nous sommes bénis de te recevoir à Vie de foi.
Merci, je suis béni d'être là.
Amen. Et au Canada, dans la terre promise, comme tu dis souvent. Amen.
Amen.
Pasteur Alain, on a parlé hier du modèle biblique de l'Église locale, le modèle ministériel oublié, donc les gens peuvent visiter sur le site emctv.com pour trouver l'archive. Mais on a parlé vraiment des 5 ministères qui sont en fait, l'idée de Dieu qu'on devrait adopter aussi. On ne devrait pas juste dire, ah, c'est dans la parole, Dieu a pensé à ça, mais nous, on préfère notre modèle. Mm-hmm. Non, on devrait suivre ce que la parole de Dieu nous dit et adopter le modèle de Dieu. Si on fait ça, on va voir des ministères fleurir comme le tien. Mm-hmm. Tu es pasteur, apôtre, vraiment sur 12 églises en ce moment, mm-hmm. En Europe et aussi en Afrique.
C'est ça.
Gloire à Dieu.
En Afrique, oui.
Oui, gloire à Dieu. Donc, les gens peuvent te découvrir sur Internet. Ton site web, c'est quoi, Pasteur Alain?
www.evangile.tv. Ça, c'est le site qu'on utilise pour mettre nos prédications.
Okay.
Sinon, acerministère avec s.com.
Bon, gloire à Dieu. Alléluia pour ça. Donc, tu es aussi investi dans les médias chrétiens.
Oui, oui.
Gloire à Dieu. Exactement. Et puis, tu fais partie aussi du conseil d'administration des ministères en 5 mois. Amen. Gloire à Dieu. Donc, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler, en fait, de l'apostolat plus précisément. On va se poser la question, est-ce que l'apostolat existe toujours? Il y a des gens qui disent non, une fois que les apôtres sont décédés, voilà, c'était la fin du ministère apostolique. Et toi, tu dirais quoi à cette pensée-là?
C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui disent que l'apostolat n'existe plus aujourd'hui. Parfois, ce sont les mêmes personnes qui disent que les dons charisma n'existent plus. Hein, les dons mm-hmm. de 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, ils disent que c'était pour lancer l'Église primitive. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je crois que les apôtres ont commencé, et l'Église a continué et les grâces qui accompagnaient ces ministères-là peuvent aussi nous accompagner aujourd'hui parce que
Amen.
Le Saint-Esprit est le même.
Mm-hmm.
Et je crois que cet équipement-là n'est pas quelque chose de désuet et de passé. On peut encore aujourd'hui avoir des apôtres,
Absolument.
Des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs.
Amen.
Voilà, moi, je ne suis tout simplement pas d'accord avec cette conception-là parce que j'ai pu voir ces dons ministères se manifester dans l'Église locale.
Mm-hmm.
Donc, si ce n'était plus d'actualité, pourquoi le Saint-Esprit les manifeste avec une telle évidence?
Amen. Et aussi, il y a un texte dans la parole, tu mentionnes en fait la croyance cessationniste
oui.
qui dit que tous les dons du Saint-Esprit ont cessé, mm-hmm. mais 1 Corinthiens 1, verset 7, en fait, c'est un cessationniste, un ancien cessationniste qui m'a avoué, il a dit, écoute, en lisant ma Bible, c'est impossible pour moi d'affirmer bibliquement que les dons ont cessé. Je l'ai cru pendant 30 ans, je l'ai prêché, mais
Amen.
Si je suis honnête devant la parole de Dieu, 1 Corinthiens 1, 7 contredit ma croyance, qui dit, il ne vous manque aucun don dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas revenu chercher son Église. Il ne nous manque aucun don jusqu'à ce moment-là. Et puis, si on voit les dons du Saint-Esprit, comme tu mentionnes, 1 Corinthiens 12 ou 1 Corinthiens 14, et aussi Éphésiens 4, 11 à 12, qui nous parle des dons que Dieu a fait. Il a donné les uns comme apôtres. Et voilà les 5 ministères. Donc, forcément, Dieu n'a pas retiré ses dons parce qu'on a encore besoin du perfectionnement du corps de Christ, n'est-ce
Amen,
pas?
Amen.
Et puis, aujourd'hui, on va parler de l'apostolat. Bon, la question, est-ce qu'ils existent encore? Bien, tu es la preuve. Mm. Et puis, on voit aussi les fruits dans ton ministère. Mm. Et Frank, tu me disais juste avant l'émission que tu avais une question, en fait, concernant l'apostolat pour Pasteur Alain.
Comment tu as fait dans les débuts de ça, quand tu as commencé le ministère, les églises et tout? Est-ce que tu avais des gens vers qui tu pouvais aller? Parce qu'on a dit... que dans l'émission d'hier, que c'est bon d'avoir des conseillers, mais il y a des gens dans la foi qui sont plus avancés, comme Timothée et l'apôtre Paul, évidemment, qui fonctionnent ensemble. Est-ce que tu as eu ça pour t'aider dans le ministère?
Bon, moi, j'ai eu en dehors de l'apôtre Paul que j'ai pu lire hein, que j'ai rencontré. Non, je blague.
Dans la parole, tu l'as rencontré.
Amen. J'ai eu le pasteur Raja Salvaraj, qui a été une source d'inspiration pour moi.
Le mari de pasteur
Dorothée Raja. Le mari de Dorothée Raja, le fondateur de Paris Centre Chrétien.
Oui.
Il est auprès du Seigneur maintenant. Il a été une source d'inspiration vraiment pour moi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plusieurs types d'apôtres. Par exemple, lui, il allait dans une ville, il faisait une croisade d'évangélisation, une église naissait. Et un pasteur prenait la responsabilité de l'église et lui repartait à Paris. Le seul lien qui le liait avec avec ce pasteur-là, c'est tout simplement un lien de mentoring, et puis pouvait aider de temps en temps l'église, mais l'église qui naissait était totalement indépendante. Ça, par exemple, c'est un type d'apostolat aussi. Bon, moi, c'est pas le cas. Moi, je crée des églises et j'établis des pasteurs qui sont mes fils spirituels, et on est une famille d'églises qui grandit ensemble, et ces églises sont interdépendantes sous mon leadership. Donc, il y a eu le pasteur Raja, il y a eu aussi quand même des personnes que j'ai observées de façon lointaine, quelqu'un que je considère vraiment comme un apôtre, même s'il ne s'appelle pas comme ça, le pasteur Chris Oyakhilome. Il a beaucoup d'églises dans le monde, et des églises quand même assez fortes, des églises grandes et excellentes. Donc j'ai observé aussi comment il faisait, j'ai lu ses livres et ça m'a beaucoup inspiré.
Une des choses aussi, c'est que je pense, je peux me tromper, tu me le diras, souvent le ministère apostolique va avoir vraiment une relation très, très, très rapprochée avec le Seigneur. Et puis ce n'est pas forcément parce que tu as été sous un ministère comme d'un autre apôtre, et puis l'autre apôtre te dit, ben voici comment faire. Oui. C'est plutôt au niveau de ta relation avec Dieu. C'est comme ça que tu as reçu les directives pour ce mouvement d'église que tu as aujourd'hui, n'est-ce pas?
Amen. En fait, à un moment donné, quand je lance l'église de Rennes, je sens un vide dans mon esprit. Et quand je sens un vide, je ne comprends pas. Et pourtant, l'église grandissait, c'était bien, quoi. On était épanouis, mais il y avait un vide. Et j'ai appelé un prophète qui était comme un père spirituel pour moi. Il vivait aux États-Unis et il est auprès du Seigneur maintenant. Et puis, je lui ai parlé. Je lui ai dit, Daddy, voici ce que je ressens dans mon cœur. En fait, je ne comprends pas. L'église grandit, l'église est bien, mais pourquoi j'ai ce vide? Et c'est là où il a commencé à prophétiser. Il m'a dit, fils, je ne t'ai pas appelé à créer une seule église, je t'appelle à être pasteur des pasteurs, je t'appelle à créer beaucoup d'autres églises. Fils, je t'ai appelé à un ministère apostolique. Et j'avoue que par respect pour ce ministère-là, je me suis dit, apôtre, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que... Et puis, dans sa prophétie, il a complété quand même pas mal de choses, et c'est comme ça que j'ai démarré. Et je me rappelle que j'ai un ami qui m'a dit, moi je crois pas aujourd'hui qu'il y a vraiment des apôtres, les apôtres sont très 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 rares. Et il me dit, ouais, aujourd'hui je vois, on t'appelle apôtre, fais attention parce que voici les caractéristiques d'un apôtre, il doit avoir des expériences personnelles avec Jésus, il doit y avoir des signes, des prodiges et des miracles, et la rapidité dans la construction des églises. Je lui dis, ben écoute, si Dieu a dit que je suis appelé au ministère apostolique, et si c'est ça les signes qu'il faut manifester pour le ministère apostolique, ben Dieu va manifester ces signes.
Mais il y a une différence entre aussi l'appel et la plénitude d'être dans le ministère, c'est ça. Il faut savoir discerner les temps et les saisons, et les gens, ils discernent pas toujours ça. Il peut avoir l'appel, mais ça peut prendre 5 ans, 8 ans, ou peu importe, jusqu'à temps qu'on marche pleinement dans l'onction de ce ministère.
Exactement. Et quand j'ai lancé ma première église, après on a lancé la deuxième église, après, on a continué, et ça s'est vraiment confirmé. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai eu des expériences spirituelles qui ont vraiment accru ma relation avec le Seigneur entre la première église et la cinquième ou sixième. J'ai eu des visitations du Seigneur au moins 3 fois. C'était très souvent dans un rêve, par vision nocturne. C'est-à-dire, il m'arrive des moments où je suis en train de prier. Je prie un point où mon corps est tellement fatigué, mais mon esprit a toujours envie de prier. Et donc, mon corps s'assoupit et mon esprit continue à prier. Et c'est là où, généralement, parfois, Dieu va me montrer des choses. Mais à 3 reprises, j'ai eu des directives du Seigneur après ces expériences-là, quoi. Donc, moi, je pense que si c'est ça les signes, parce qu'on parlera, en fait, les signes de l'apostolat, si c'est ça les signes, personnellement, j'ai vu ces signes se manifester dans ma vie. Même la rapidité avec laquelle on fonde les églises. Aujourd'hui, nous, on a la possibilité, en 6 mois, de pouvoir faire une église, et en 9 mois, environ, l'église est, comment on appelle ça, autonome. Et même excédentaire. Et ça, c'est vraiment aussi quand même important pour le ministère apostolique.
Amen. Et et ton point, c'est très, très bien, Frank, parce que j'ai reconnu certaines personnes dans notre équipe. Je reconnais vraiment une onction sur leur vie. Et parfois, j'ai entendu des commentaires, les gens disaient « Oui, mais je vois pas telle ou telle chose dans la vie de telle personne. Mm-hmm. » Et puis, je dis « On peut reconnaître l'onction sur une personne, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont arrivés et que c'est fini. Mm-hmm. Dieu continue à travailler dans nos cœurs. Mais si on ne reconnaît pas, avant de voir tous les fruits, on ne verra jamais les fruits. Donc, on commence premièrement en reconnaissant l'onction sur la vie d'une personne, puis on se dit, OK, ça, je ressens vraiment ceci en tant que leader spirituel. Et après, comme on commence même à déclarer sur leur vie telle onction, bien là, on fait appel à cette onction, puis on voit finalement, ils rentrent de plus en plus dans leur appel.
L'identité se forge.
Amen. Oui, amen. C'est vraiment ça. Et puis, je vais lire un texte concernant l'apostolat. 2 Corinthiens 12:12 nous dit, « Les preuves de mon apostolat, ça c'est l'apôtre Paul qui parlait, ont éclaté. Donc, les preuves ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Et c'est sûrement ce texte-là que cette personne te mentionnait, ouais. Pasteur Alain. Donc, oui, il y a des preuves et on souligne souvent les prodiges et les miracles, mais une des choses, je pense, avant de voir même les prodiges et les miracles, souvent, c'est les épreuves. Est-ce que tu as déjà été éprouvé, Pasteur Alain?
Ah oui, non, mais terriblement. J'ai passé une année et demie, une année, je pense que c'était une année terrible. Une année et demie, c'était... Et quelqu'un me disait, tu sais, Pasteur Alain, la ville dans laquelle Dieu t'établit ou le pays dans lequel Dieu t'établit, parfois, il te persécute avant que tu n'aies la domination et la suprématie sur ce pays, que tu sois établi. J'ai vécu des temps vraiment où, en un an et demi, j'ai rencontré 3 fois les autorités. 2 fois des juges, 1 fois le maire, rien qu'à cause de mon ministère.
Wow.
Et c'était terrible. Et pendant ces une année et demie, je me rappelle que j'ai dû envoyer mes enfants au pays, au Gabon, et à dormir dans les bureaux de l'église. C'était vraiment difficile. Mais pendant ce temps-là aussi, le Seigneur était vraiment présent. Il était vraiment présent et je me rappelle que j'étais dans le bâtiment de mon église et le Seigneur a envoyé un ange. Et j'ai vu un ange. J'étais assis et j'ai vu l'ange et la personne qui était avec moi dans la pièce, je lui ai dit « Hey, il y a un ange ici, il est juste là. » Et la personne regarde, je vois rien. Je dis « Mais je vois, il est là. » Je fermais les yeux, je voyais l'ange, je les ouvrais, je voyais l'ange. Il était vraiment imposant et il était comme ça, il me regardait. Il était juste là comme ça. Et là, j'étais là, je paniquais un tout petit peu. Le Saint-Esprit m'a comme dit, non, calme-toi. Et je me suis calmé. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, une seule de ces créatures est capable de prendre tout ce bâtiment et le balancer dans la mer. Mais toi, je ne t'ai pas donné une seule de ces créatures pour travailler avec toi. Il y a beaucoup d'anges qui travaillent avec toi. Donc, ne les crains pas. Oh là là, ça m'a fortifié. Et je pense que peut-être deux, trois semaines après, je devais rencontrer des juges pour une affaire ministérielle. Parce que bon, l'église était attaquée, il fallait que je réponde de certaines choses. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il faut être patient. Il y a vraiment un apôtre que j'aimerais honorer au Gabon qui a été une source d'inspiration pour moi, le pasteur Francis Michel Mbadiga. C'est vraiment quelqu'un, c'est un peu le père du réveil spirituel charismatique au Gabon. Et ce monsieur a été persécuté au Gabon, c'est-à-dire que il a été pourchassé à l'époque par les autorités en place parce que il y avait un réveil que le gouvernement en place ne comprenait pas du tout et parfois il avait été emprisonné, son équipe avait été emprisonnée, ils avaient vécu des choses où on venait par exemple dans une réunion de prière, on les attrapait et on les mettait en prison, on les déshabillait, les sœurs et les frères dans une même pièce, on les déshabillait et on les tabassait, on les frappait. Et peut-être 2-3 jours plus tard, on les libérait. Mais quand on les libérait, tous les gardiens et les gardiens de la prison se convertissaient quand ils partaient parce qu'ils ont prêché l'évangile, parce qu'ils ont loué le Seigneur. Et la persévérance de ce monsieur m'a montré véritablement ce qu'était le ministère apostolique. Wow. Parce qu'il est à la tête des églises aussi au Gabon et un peu dans le monde entier. Et le Seigneur l'a beaucoup béni là-dedans. Donc, quand j'ai regardé son ministère, je me suis dit, waouh, c'est ça l'apôtre. Et j'avoue qu'il a été beaucoup une source d'inspiration pour moi et mon ministère.
Amen. Ouais. Ça veut dire que tu as vraiment eu des inspirations. Ouais. Mais en même temps, est-ce que, bon, tu as eu cette relation avec l'autre pasteur que tu mentionnais, qui a discerné l'appel apostolique sur ta vie. Ouais. Mais est-ce que tu as vraiment eu cette relation de dépendance envers Dieu pour qu'il te dise comment faire l'œuvre de Dieu, ou tu avais toujours quelqu'un qui te coachait, si on veut, qui te disait comment faire?
En fait, je reçois une directive du Seigneur, mais j'aimerais quand même consulter des personnes qui ont fait ça avant moi pour savoir si je ne me suis pas trompé, si vraiment j'ai entendu le Seigneur. Et très souvent, quand Dieu me donnait une directive, j'allais effectivement, j'appelais des personnes qui étaient dans le ministère apostolique et je leur demandais, je dis, tiens, je sens qu'il faut que je fasse ça. La personne me dit, oui, ça va amener l'expansion dans ton ministère, ça va amener ceci, ça va stabiliser les choses. Oui, effectivement, je suis en relation et j'étais en relation avec ces personnes-là.
Amen. Oui. Donc, c'est bon, on ne travaille pas comme des personnes qui s'isolent du corps de Christ. On est dépendant du corps de Christ, mais premièrement du Seigneur.
Amen.
Et certains aussi, comme tu mentionnais, ton ami qui disait, fais attention, pasteur Alain, de reconnaître, en fait, l'appel apostolique sur ta vie, parce que plusieurs apôtres ou les apôtres devraient avoir vu Jésus face à face. Mais dans ton cas, tu as eu une visitation de Dieu il n'y a pas si longtemps. Est-ce que tu veux nous partager?
Et c'est vrai que dans mon...
Je te surprends par la question.
Non, c'est pas grave. C'est-à-dire que j'ai eu la conviction que j'étais appelé au ministère apostolique avant d'avoir vécu les visitations, en fait, du Seigneur, avant d'avoir vécu ça. Pour moi, ces visitations du Seigneur ont été comme des confirmations. Ils ont été comme des confirmations. Je me rappelle une fois, j'étais dans ma chambre, je priais, et j'étais transporté devant le trône de Dieu. Et la gloire qui émanait du trône me transperçait et me rendait translucide. Et dans Ésaïe chapitre 6, je jugeais beaucoup Ésaïe. Ouais, j'ai jugé Ésaïe. À la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, les pans de sa robe remplissaient le temple. Je jugeais Ésaïe, je dis, mais comment dans Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5, il prophétise. Mais dans Ésaïe chapitre 6, il a une visitation du Seigneur, il voit la gloire de Dieu. Il dit, malheur à moi qui suis un homme impur et qui vis au milieu d'un peuple impur. Et là, je le jugeais, je dis, voici quelqu'un qui prophétisait, voici quelqu'un qui prêchait, et il ne connaissait pas la gloire de Dieu. Mais le jour où j'ai vu la gloire de Dieu, le jour où j'ai été transpercé par ça, j'ai compris que parfois on prêche des choses qu'on ne connaît pas. Et depuis ce jour-là, quand on prononce le mot gloire de Dieu, en fait, je souris. J'ai dit. Quand j'entends les gens dire « Seigneur, manifeste ta gloire », je souris tout seul. Parce que la gloire me rendait transparent et je voyais mes erreurs. Du trône sortait une voix, le Seigneur était en train de me parler, mais pour te dire... j'étais tellement déstabilisé par l'intensité de la gloire, de la puissance, je vibrais en fait. Devant le trône, je vibrais, tout mon être vibrait. Et à un moment donné, j'ai poussé un cri, je suis revenu sur mon lit. Et quand je suis revenu sur mon lit, je vibrais encore. J'étais là, je vibrais et j'ai fait 2 semaines, j'étais traumatisé positivement. Je disais, waouh, Seigneur, j'ai prêché un Dieu que je ne connaissais vraiment pas. Ça a renouvelé quelque chose dans ma relation avec Dieu et dans ma révélation même du Seigneur Jésus. Et là, je me suis rappelé du passage qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et c'est là où j'ai compris qu'il y a une saison dans notre vie où Dieu a prévu de nous visiter de façon incroyable et extraordinaire. Et parfois, nous ne sommes pas préparés. Il faut se préparer à ces temps-là et se dire que quelque chose va se passer, il va certainement nous donner des trucs. Et ce jour-là, je me rappelle que je suis revenu dans mon corps avec le sentiment que je n'ai pas entendu ce que Dieu voulait me dire parce que j'étais tellement impressionné. Et c'est là où je pense, des temps après, j'ai eu d'autres expériences où le Seigneur a étayé un peu ce qu'il voulait me dire.
Sauf que... C'est ça, dans le ministère apostolique, on vit ces visitations-là qui peuvent se multiplier aussi dans une vie. Et pas simplement les apôtres. En fait, tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vivre des visitations. Mais vraiment, quand nous sommes dans un leadership spirituel, c'est tellement important pour nous d'avoir ces rencontres-là parce que bien, ça vient sceller des choses dans l'esprit pour notre vie. Comme ceux qui suivent l'émission Vie de foi, ils le savent bien. En 2004, le Seigneur m'a visité et c'est là où Dieu a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone.
Amen.
Mais cette année, en 2018, je ne l'ai même pas dit encore, pasteur Alain, mais le 1er juillet 2018, comme j'étais assis dans une église en Alberta, dans le même ministère où je me retrouvais avant, en 2018, 2004, j'étais là et puis il y avait Craig Berroker, un pasteur de Calgary, qui est le même pasteur qui prêchait quand j'ai eu ma visitation. C'est du copier-coller. Mais il prêchait et puis comme il prêchait, j'ai été vraiment frappé par la foudre de Dieu. Et puis, c'était vraiment spécial. J'ai vécu une autre visitation le 1er juillet et puis... tout de suite après, j'ai commencé à avoir des confirmations, en fait, de ce que j'ai reçu de Dieu à ce moment-là. Et puis, ces choses-là nous dérangent. Et il y avait un frère aussi qui était là, qui m'a vu. J'étais assis sur ma chaise à l'église, mais je suis tombé en pleine face. J'ai plongé sur le plancher de ciment. Et puis, il me dit, après, il dit, c'est sûr que c'était Dieu. Personne au monde oserait se frapper la tête sur le ciment. Et quand c'est dur, on n'a pas de souci. Hein, on n'a pas de souci.
Ces anges sont là pour amortir le choc.
Oui, c'est ça. Mais vraiment, le Seigneur qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est un Dieu vivant.
Amen.
Vraiment, là, des fois, les gens s'imaginent, bon, oui, dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul a eu une visitation au troisième ciel. Oui, Jean, qui était sur l'île de Patmos, a eu des visitations. Oui, oui, il a reçu... Mais ça, c'était dans la Bible. Aujourd'hui, on a la Bible, donc on n'a pas besoin de révélation. Mais oui, la parole de Dieu est notre autorité finale. Tout doit être biblique. Mais je crois dans ce Dieu qui est toujours vivant, dans les anges
absolument.
Qui sont là, et puis continue à nous visiter. Et puis, des fois, on a comme la première partie de notre vie, comme en 2004, je sais, c'était vraiment une préparation pour ce que j'ai vécu depuis des années. Mais là, en 2018, des années plus tard, là, c'est comme Dieu me disait, une des choses que j'ai entendues, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt? Et puis, des fois, Dieu nous pose la question aussi, est-ce que non, on est prêt vraiment? Parce qu'il va y avoir un coût, là. Quand Dieu nous donne des mandats ou il nous appelle à se sacrifier, comme le texte qu'on a lu aujourd'hui, on a besoin de patience à toute épreuve. Tu as mentionné juste rapidement, en fait, l'épreuve de vivre dans ton église locale, en fait. Tu vivais dans ton église, tu as été éprouvé. Et peut-être, je ne sais pas, s'il y avait des gens dans ton entourage qui t'encourageaient, peut-être même de démissionner, d'abandonner la foi.
Non, parce que je suis assez bien entouré. Mes collaborateurs, amen, gloire à Dieu, mes collaborateurs savaient que Dieu nous avait appelés et qu'il y avait quelque chose qui se passait. Bon, ces moments-là nous ont permis quand même de développer certaines qualités ministérielles. Ça nous a rapprochés, ça nous a beaucoup rapprochés et j'ai pu voir véritablement qui était qui aussi dans mon église. Parce que quand vous vivez de tels moments, il y a des personnes qui pensent que Dieu n'est plus avec vous. Ils se disent non, c'est pas possible qu'un homme de Dieu puisse vivre autant de problèmes parce que ça s'enchaînait, ça venait presque une fois tous les 3-4 mois. C'était après 4 mois, mais c'est quoi le prochain truc? C'est-à-dire après 4 mois, moi j'ai les voisins de mon immeuble qui font une pétition pour que je libère l'appartement. Je quitte l'immeuble. Peut-être 3-4 mois plus tard, je reçois une lettre de la police qui me convoque. Peut-être 4 mois plus tard, je reçois la mairie qui demande que mon église quitte le bâtiment. Non, mais c'était terrible. C'était terrible. À un moment donné, si vous ne priez pas beaucoup, si vous ne croyez pas... et c'est vrai que quelques temps après, avant cela, avant que tout ça n'arrive, le Seigneur m'a parlé. J'étais en train de prier, j'adorais le Seigneur. Et là, j'ai eu une vision ouverte et j'ai vu le continent européen. Et là, j'ai entendu une voix me dire, je t'ai appelé en France et c'est du vieux continent que tu influenceras le monde. Et là, la vision s'arrête. Et je dis, mais Seigneur, mais je ne comprends pas. Je n'ai jamais dit que je voulais quitter la France. C'est quoi? J'étais juste en train d'adorer. Et je ne parlais même pas de ma destinée. Nation. J'adorais le Seigneur. Je lui disais comme une fois, il était merveilleux. Fellowship, quoi, comme vous dites en anglais. Voilà. Voilà, c'est ça. Et j'ai cette vision-là. Et paf, ça disparaît. Et un mois plus tard, j'ai le coup de fil de la police. Et ça s'est enchaîné. Ça m'a permis de voir que le Seigneur est avec nous. Ça m'a permis de voir que Dieu m'a véritablement appelé. Même au moment où certaines personnes me disaient, pasteur, tu es sûr qu'on est dans la volonté de Dieu? Je leur disais, non, je suis sûr qu'on est dans la volonté de Dieu. Il faut juste qu'on tienne bon, parce que ça fait partie des choses par lesquelles on doit passer. Ce que j'aime avec le désert, et quand le Seigneur nous introduit dans une sorte de désert, ce que j'aime avec ça, c'est que dans le désert, les Israélites étaient dirigés le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu, en fait. Et le truc, c'est qu'il y a une version qui dit la colonne de nuage le jour et la colonne de feu la nuit. Dans le désert, dans la nuit, il fait froid. Et dans la journée, il fait très chaud. Si la colonne de nuage dirigeait le peuple juif, c'est qu'il mettait de l'ombre sur le peuple juif pour pouvoir refroidir la température du désert dans la journée. Et la colonne de feu la nuit pour pouvoir réchauffer le peuple juif parce que il y avait le froid du désert. Je suis convaincu que même dans le désert, Dieu régule la température. D'après le verset qui nous dit qu'il ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. La température était régulée parce que il nous visitait pendant ces moments-là et on a connu des moments de fraternité aussi intenses pendant ces temps-là. Et puis bon, les déloyaux sont partis, mais bon, c'est pas grave, hein.
Là, on a vu beaucoup d'épreuves, mais là, les signes aussi, qu'est-ce que tu as vécu comme signe en démarrant les églises? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, mais on va démarrer les églises humainement parlant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant forcément comment une église va se démarrer, ouais. Mais vite dit, les signes peut-être que tu as vécu en démarrant les églises.
Non, beaucoup de guérisons, les boiteux qui marchent, ça j'en ai eu, les sourds, je compte même plus, hein. Je peux même plus compter les sourds. J'en ai eu plein. C'est le classique généralement dans mon ministère. Les gens ont eu l'occasion de voir des malades être guéris, des sourds entendre. Il y a eu même des personnes qui souffraient de maladies graves qui ont été guéries, en fait.
Pasteur Alain, j'aimerais ça t'interrompre parce qu'il nous reste 2 minutes.
Oui.
Est-ce que tu peux prier? Tu crois dans les signes, les prodiges, les miracles?
Amen.
Il y a des gens qui disent, ah, seulement si Pasteur Alain pouvait prier pour moi, j'ai tel souci. Est-ce que tu pourrais prier pour les gens à la maison?
Amen.
C'est une bonne question, Frank, merci. Ouais. On va terminer l'émission comme ça dans la prière où tu peux vraiment relâcher ta foi si vous êtes dans le besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de prier 2 heures. Une parole de Dieu peut vous libérer. Amen. À Sœur Alain.
Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Père, merci. Père, je te prie pour toutes les personnes qui sont sous l'influence de ce programme. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que ta puissance est dans les maisons maintenant. Père, je déclare que tout malade qui me regarde maintenant est guéri.
Oui.
Soyez guéri de tout cancer au nom de Jésus. Soyez guéri de la tuberculose au nom de Jésus. Soyez guéri de toute infirmité. Au nom de Jésus, tout esprit d'infirmité, je te chasse des vies maintenant. Soyez guéri de tout esprit de surdité. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit de surdité et j'ordonne aux oreilles de s'ouvrir. Soyez guéri de tout esprit de cécité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, tu prends ton lit et tu marches là où tu es, tu te lèves maintenant et tu marches. La puissance de Dieu et l'onction de Dieu descend maintenant sur vous. L'onction de guérison vous restaure et vous redonne la santé et la force de Dieu. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. On croit dans ce Dieu qui a donné les 5 ministères pour son Église et puis que Dieu a établi des apôtres dans le corps de Christ qui sont vraiment des sources de bénédiction pour nous, comme Pasteur Alain, tu es une source de bénédiction pour nous à EMCI et partout à travers le monde où tu circules. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, si vous avez cru, vous avez pu recevoir une touche de Dieu, une guérison, une délivrance, peu importe le besoin. Nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre, peu importe le continent. Nous sommes ici au Canada, mais il n'y a pas de distance dans la prière et puis il n'y a pas de distance même dans l'onction. Je sais que Frank, dans son émission Héros de la foi, qu'il y a des gens qui ont été guéris par une prière qui a été priée il y a 50 ans.
Oui.
Donc, il n'y a pas de distance dans la prière ou de limitation. Il n'y a pas de date d'expiration pour une prière parce que l'onction de Dieu est en dehors du temps parce que notre Dieu est éternel, il est en dehors du temps. Donc, je crois que vous avez reçu dans le nom de Jésus. Et écrivez-nous à videfoi@enseignemoi.com et laissez-nous savoir ce que Dieu a fait dans vos vies. On poursuit demain avec cette étude merveilleuse sur l'équipe gagnante de Christ. D'ici à demain, merci d'avoir été là. Merci Pasteur Alain, merci Frank et merci à vous. Soyez richement bénis.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.